RCF.
Il y a 18h10, c'est l'heure du 18-19 en région et c'est Alexis Claudretz qui nous présente le menu ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau magazine régional ce jeudi soir. Qui dit jeudi, dit Gérard-Marie Henry à nos côtés. Bonsoir Gérard.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tout le monde.
L'écologie à la française, c'est une recette que vous allez nous présenter dans quelques instants.
On va essayer de déguster le repas.
Bon, bah écoutez, on va en tout cas essayer de prendre l'apéritif, vu l'heure qu'il est, 18h10. Il est encore un petit peu tôt pour manger quand même, Gérard-Marie Henry. Mélissa Tavares, stagiaire à la rédaction, plus précisément à la communication, qui est en train de nous faire de très beaux visuels pour nos réseaux sociaux, est à nos côtés. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pendant ce 18-19 au programme de ce magazine régional. Une rencontre avec le maire de Flies, dans les Ardennes, entre Charleville-Mézières et Sedan, c'est Cédric Brands qui sera avec Jean-Pierre Benoît d'ici quelques minutes. Et puis, plusieurs sujets à vous proposer ce soir. Il sera question de musique avec Jean-Marie Puissant qui présentera un concert pour la paix organisé demain, le 29 septembre. Et d'ailleurs, en parlant de musique, il y a un rendez-vous que l'on peut vous donner également du côté d'Ille-sur-Suippes. C'est ce samedi 30 septembre à 20h, un concert exceptionnel avec les Amis de l'Orgue et des Vitraux de l'église Saint-Remi d'Ille-sur-Suippes. C'est 8€ par personne. Les places sont à réservé d'ores et déjà à la mairie. On continue de balayer le programme du soir puisque l'on parlera du service national universel. C'est une rencontre avec Juliette et Ava qui vous est proposée par Jeanne Boudre dans Parole de Jeunes. On sera également avec la responsable de l'école de la deuxième chance en Champagne-Ardenne, Armelle Simon, et puis des conférences sur le sens de la vie qui sont organisées par Jean-Marie Beaupuis et Jean-Christophe Bobin. Notamment, le rendez-vous, c'est à partir du 3 octobre et ça va s'étaler tout le long de l'année 2023-2024. On parle là en année scolaire, notamment jusqu'au mois de mai. Ça fait un programme riche pour ce magazine régional ce jeudi soir. On ne va pas traîner. À 18h12, on retrouve Gérard-Marie Henry. Gérard-Marie, bonjour.
Oui, rebonjour Alexis.
Gérard-Marie, l'écologie à la française, selon le chef de l'État, c'est ce que vous nous proposez.
Oui, il y a eu un grand discours, en fait, du président de la République essayant d'expliquer qu'on allait effectivement essayer de continuer à faire des efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais que ces efforts, on s'arrangerait pour que ça ne touche pas trop les personnes modestes, les familles qui ont peu de revenus, etc. Donc c'est ça le thème général, l'écologie à la française, elle va protéger les faibles, les modestes, et elle va quand même réussir à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Je vais dire justement, Gérard-Marie Henry, avant même de parler du domaine de l'économie et de qui peut être touché, qui va débourser le plus, qu'est-ce qu'on nous promet dans l'écologie à la française? Ça veut dire quoi aujourd'hui la transition écologique?
La transition écologique, c'est essayer de réduire, comme je le disais, les émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire, par exemple, utiliser moins de pétrole, utiliser moins de charbon, utiliser moins de gaz. Donc évidemment, le président a dit que les deux dernières centrales au charbon, on les arrêterait, qu'on essaierait de les remplacer par des centrales à la biomasse. Donc tout ça, c'est les efforts qu'on essaye de faire, mais qui sont coûteux. Parce que ces deux centrales au charbon qui fonctionnent correctement, si on veut leur faire brûler autre chose, il faut investir.
Mais Gérard-Marie Henry, si ma mémoire ne me fait pas défaut, la sortie du charbon, c'était déjà prévu et puis oui, on a reculé les échéances. On va peut-être reculer comme ça encore dans le temps.
On va faire ce qui est nécessaire, c'est-à-dire s'adapter aux circonstances. Si les prix de certains produits sont élevés, on va essayer de ne pas trop en utiliser et puis d'utiliser d'autres qui sont moins chers. Et par exemple, le charbon en ce moment est pas cher du tout sur le marché mondial. Donc on a des pistes qui ne sont pas forcément bonnes, mais que certains de nos voisins ont prises. Peut-être que vous savez que la semaine dernière, le Premier ministre anglais a décidé de revenir sur la décision qui était de ne plus construire de voitures à moteur thermique à partir de 2030. Donc normalement, les constructeurs anglais devaient arrêter de faire des voitures, on va dire, normales.
Calendrier intenable.
Calendrier absolument intenable. Il a dit, on va reporter ça de 5 ans. Et évidemment, les hypocrites ont dit c'est pas beau, etc. Mais en fait, ça va permettre de garder les emplois dans les gens qui travaillent dans ces usines pour voitures normales, etc. Enfin, on essaye de faire en sorte que ça ne soit pas trop douloureux et les bonnes méthodes sont assez difficiles à trouver.
Je vais faire un petit peu d'écologie fiction avec vous quelques instants, Gérard-Marie Henry, mais quand on nous dit On repousse même de 5 ans pour les voitures thermiques. On a l'impression que finalement, c'est une date un petit peu pour faire plaisir, essayer de faire le consensus, mais qu'on va peut-être repousser encore de 5 ans une fois qu'on aura passé les 5 premières années.
Absolument.
Et que ça va peut-être repousser de 10 ans, de 15 ans, voire même de 20 ans.
Absolument, absolument. En fait, bon, l'objectif qu'on s'est fixé, hein, qui est très difficile à atteindre, j'y crois pas trop, c'est ce qu'on appelle le net zéro en 2050. Ça veut dire en 2050, on n'émet plus de gaz à effet de serre, sauf ceux qu'on émet et qu'on capte, qu'on arrive à arrêter, qu'on met sous la terre, etc. Donc on arrive à ne plus avoir d'émissions positives, net zéro. Et pour arriver à ça, bah, il faut faire des efforts assez monstrueux. Et donc maintenant, on commence à se dire bah, qu'il faut pousser un peu les objectifs, peut-être ne pas les rater complètement, peut-être faire 2060, mais ça va être très difficile.
Justement, puisque l'on parle de la voiture à moteur thermique, il y a une autre promesse qui a été faite, et ça c'est pour dès 2024, un parcage automobile avec la voiture électrique accessible à partir de 100 euros par Français. On a aussi du mal à y croire quand même, Gérard-Marie-Henri.
On a vraiment du mal à y croire.
Déjà, ne serait-ce que quand on prend l'autoroute, moi j'étais cet été sur les routes entre la Bretagne, la Mayenne, etc., pour trouver une borne électrique, c'est l'enfer absolu.
Absolument, absolument. Mais c'est ça qui est assez extraordinaire, justement, sur la voiture électrique par rapport à la voiture thermique. Quand on a commencé à avoir massivement des voitures aux États-Unis à partir de 1915, ben les producteurs de pétrole se sont débrouillés pour créer plein de stations-service. Alors que là, les producteurs d'électricité, ils créent pas de stations-service avec des bornes électriques. C'est les constructeurs qui sont obligés, enfin, ou les États, etc. Donc ça va être très difficile. Alors le président nous dit que ça va ne pas toucher les personnes. Enfin, on a tout un discours sympathique. Mais en fait, si on veut faire ça, ça va coûter extrêmement cher, alors que les finances de l'État français sont dans un état assez terrible.
Depuis le début de cette chronique, Gérard-Marie-Henri, on a parlé des sujets, j'allais dire, qui sautent aux yeux. Quoi qu'il en soit, le président de la République, Emmanuel Macron, il a promis une écologie accessible et juste, tout cela selon un plan concocté depuis 14 mois par le secrétariat général à la planification écologique à Matignon. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan, Gérard-Marie-Henri ? Moi, je trouve ce poste formidable.
Ça crée des emplois. Hein. Vous vous rappelez que chaque fois qu'on a des fonctionnaires en plus, c'est bien puisque ça fait des emplois supplémentaires. Je rappelle que cette année, on va encore créer à peu près 8000 emplois de fonctionnaires, alors que dans son premier mandat, le président de la République avait promis de réduire le nombre de fonctionnaires d'à peu près 500 000. Alors, qu'est-ce que c'est que ce secrétariat de planification
Le CGPE, comme on l'abrège.
C'est un organisme qui essaye de trouver des pistes qui sont déjà assez connus pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Une cinquantaine de leviers. On agit sur quoi, Gérard-Marie?
On essaye, par exemple, alors on va prendre l'exemple le plus connu, on essaye d'inciter les gens à supprimer leurs chaudières au mazout ou au gaz pour les remplacer par des pompes à chaleur. Alors c'est pas mal, c'est bien, ça va permettre de moins utiliser de combustibles fossiles. Mais il faut que les personnes puissent payer ces pompes à chaleur.
On a une idée du prix de la pompe à chaleur, Gérard-Marie?
À peu près, moi j'en fais mettre une dans une semaine, ça va coûter à peu près une vingtaine de milliers d'euros.
C'est déjà pas mal,
alors,
ça fait un bon petit billet.
Il y a une prime étatique qui est de l'ordre de 5000 euros, auquel j'ai droit quand même si je ne suis pas dans les familles les plus modestes, on va dire. Mais il reste 15 000 à payer. Et 15 000, ça fait beaucoup. Donc ça veut dire qu'un investissement qui sera rentable pour une famille normale, qui est rentable au bout de 12 ans. Au bout de 12 ans, on peut dire que ce que j'ai consommé en moins comme pétrole ou comme gaz par rapport à ce que je paye maintenant comme électricité, à condition que le prix de l'électricité ne flambe pas, mais en se basant sur le prix actuel, dans 12-15 ans, j'aurai récupéré l'investissement que je fais.
Elle a déjà intérêt d'être durable, cette pompe à chaleur. Faut pas qu'il y ait l'intervention de techniciens dessus, qu'on doive la remplacer pour un problème X ou Y.
Absolument. Donc il y a une garantie décennale. Après 10 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais voyez, c'est une piste très importante, hein. Une piste que dans tous les pays, on essaye de favoriser, mais qui coûte extrêmement cher, puisque 5000 euros par pompe à chaleur que les gens vont investir, si on a quelques millions, ça fait une belle ardoise de milliards d'euros.
On a donné quelques pistes avec vous, Gérard-Marie-Henri, pour conclure cette écologie à la française selon Emmanuel Macron, une stratégie populiste et coûteuse.
Oui, une stratégie populiste, puisqu'on sent très bien que le président a peur d'un nouveau mouvement des gilets jaunes et qui veut faire en sorte que les gens se disent l'écologie, ça ne va pas trop me toucher. Et une stratégie coûteuse, puisqu'il va falloir donc mettre au bout en financement public ce que l'on ne fera pas payer aux différentes personnes.
Merci Gérard-Marie-Henri de nous avoir éclairé. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Le 18-19 sur RCF.
18h20 sur RCF, en Sardaigne, RCF, cœur de Champagne. Votre maire qui vous parle ce soir, vous le savez, c'est l'heure à laquelle on retrouve un maire d'une commune. Il est dans les Ardennes, puisqu'il est l'édile de Flies, entre Charleville-Mézières et Sedan. Il s'agit de Cédric Brands avec Jean-Pierre Benoît.
Cédric Brands, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, monsieur le maire, puisqu'on parle des maires et on est dans les Ardennes avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la commune et puis vous-même, depuis combien de temps vous êtes maire ?
Alors, la commune, donc c'est une commune qui a fusionné récemment en 2019 avec trois autres villages qui s'appellent Bellevue, Boutancourt et Élan pour créer une commune nouvelle qui s'appelle la commune nouvelle de Flize. Donc Flize était un village qui existe depuis aujourd'hui 1000 ans. Et c'était un chef-lieu de canton, c'était longtemps le chef-lieu de canton, c'est à mi-distance entre Charleville et Sedan, il y a 12 km de Charleville, 12 km de Sedan. Donc aujourd'hui la commune nouvelle, elle fait 1700 habitants pour une superficie de 26 km2. Et moi, je suis conseiller municipal depuis 2008 et maire depuis 2014. Donc là, j'attaque, c'est mon deuxième mandat.
Alors, effectivement, on sait que vous êtes un passionné, Cédric Brands, de votre commune et de votre investissement pour cette fonction publique. Alors, quelles ont été vos motivations pour être maire ? Est-ce que on peut dire un peu familièrement que c'était dans votre ADN ?
Dans l'ADN, non, parce qu'il n'y avait personne de ma famille qui était au conseil municipal avant. Par contre, c'est mon village d'enfance. J'ai toujours habité Flize. Mes arrière-grands-parents étaient italiens, sont arrivés à Flize pour travailler. Il y avait une grosse usine de sidérurgie à Flize. Ils sont venus pour travailler dans les années 20 à Flize, dans cette usine de sidérurgie. Mon arrière-grand-père a rencontré mon arrière-grand-mère à Flize et ils sont restés. Mes grands-parents ont habité le village, mes parents et puis moi. Donc voilà, c'était ma commune. Je me suis retrouvé au conseil municipal parce que j'étais un enfant du village à l'époque et qu'on m'avait demandé que ça m'intéressait de faire partie du conseil. Et puis après, le maire ne se représentant pas, j'ai décidé d'y aller. Et puis je suis parti comme ça, naturellement, avec des gens du village pour faire une liste. Et on a gagné les élections en 2014. Voilà.
Alors, Cédric Brands, présentation rapide de cette commune. Elle est, vous l'avez dit, pas loin de Sedan et de Charleville-Mézières. Est-ce qu'on peut la qualifier de commune périurbaine ?
Oui, alors c'est exactement ça, c'est aujourd'hui une commune périurbaine. Aujourd'hui on se trouve dans la grande banlieue de Charleville-Mézières. Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'on est sur un axe, une départementale qui est très utilisée entre Charleville et Sedan. On est proche de l'usine Stellantis, à 4 km, les gens connaissent mieux sous le nom de Citroën. On est proche aussi de l'hôpital de Manchester, qui sont les deux plus gros employeurs du département des Ardennes. Donc il y a une activité, il y a beaucoup de passages sur cette route. Donc ça reste un endroit assez dynamique. Et notamment mon village, avec qui on attire beaucoup de populations périurbaines de Charleville et de Sedan.
Et puis il faut dire que peut-être, je ne sais pas si c'est l'effet Covid, mais il y a beaucoup de gens, ça c'est un peu en dehors des questions traditionnelles, mais qui souhaitent, parce qu'on est à la fois proche de la ville, mais il y a un côté quand même campagne à Flize encore, j'allais dire, profiter du cadre de vie.
Alors on essaye de garder ça. Puisque voilà, quand on a des périurbains qui arrivent, nous on essaie de garder aussi cet esprit village, parce que bon, on est quand même proche de Charleville. Après, il y a le Covid a fait ça beaucoup, les gens ont cherché à quitter les villes, mais même si Charleville et Sedan aujourd'hui, ça reste des villes quand même de taille moyenne pour Charleville et petite pour Sedan, où on n'a pas l'impression plus d'être étouffé dans une grosse ville. Mais il y a aussi le fait aussi de l'imposition locale. Les impôts locaux à Flize la taxe d'habitation était notamment largement moins importante que les deux villes. Donc les gens avaient tendance à s'exiler un petit peu, puis se rendre compte que partir de Flize pour aller travailler au centre-ville de Charleville, on met des fois autant de temps que si on habite à l'ouest de Charleville et qu'on va aller au centre-ville de Charleville. Donc en fait, les gens, il y a une qualité de vie, il y a une tranquillité, il y a peu, voire pas de délinquance, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est
des atouts considérables. Alors Cédric Brands, beaucoup de maires, il y en a qui ne veulent pas redonner, il y en a beaucoup qui démissionnent, enfin, qui disent on a beaucoup trop de choses à faire et qui s'interrogent face aux responsabilités.
Oui, alors aujourd'hui, il y a une perte énorme d'envie de la chose publique. Aujourd'hui, la vocation pour être élu, c'est compliqué. Vous voyez ce qui s'est passé pendant les émeutes où les maires se sont fait pratiquement agresser dans plein de villes. Aujourd'hui, c'est difficile de faire face aux responsabilités. Il y a énormément de responsabilités. Ça peut engendrer de réels problèmes, mais à un moment, il faut bien qu'il y ait des gens aujourd'hui qui donnent de leur temps pour aider les communes à se développer. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu faire. Quoi.
Alors, quelles questions on vous pose, quel type de demandes on vous pose quand vous traversez le village ? Parce que tout le monde vous connaît, le maire, on le connaît. C'est un élu qu'on connaît.
Les grosses demandes qu'on a aujourd'hui, c'est sur des modifications d'habitation et autres. C'est souvent des questions permis de construire, des questions d'urbanisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est essentiellement ça que les gens se posent des questions. Et puis après, qu'on peut avoir beaucoup quand on interpelle, parce que c'est la propreté du village, des
cimetières. Désherbage, voilà. Trottoir, cimetière, etc.
Voilà, exactement. Ouais. Alors aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal à comprendre que on est dans un nouveau monde où on n'a plus le droit d'utiliser de produits phytosanitaires. Donc aujourd'hui, ce qu'on avait il y a encore à peine 10 ans aujourd'hui, où tout était impeccable, où les trottoirs, il n'y avait pas une herbe, aujourd'hui ça n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'utiliser de produits phytosanitaires. Au cimetière, on n'utilise plus de produits phytosanitaires.
Absolument. Le temps passe très vite, Cédric Brandt. Je vais accélérer un petit peu les questions. Alors, simplement, quelques projets en cours ou à plus long terme, brièvement, avec votre conseil municipal pour 2024-2025, par exemple?
Alors, les projets en cours, là, on a fait un pôle scolaire récemment. Donc, nos anciennes écoles sur FIS sont libérées. Donc, il fallait essayer de trouver quelque chose à faire. Donc, dans l'école primaire, on va normalement le vendre à un privé qui devrait faire des petites maisons pour les personnes âgées, donc des petites maisons de plein pied, adaptées pour les personnes âgées, pour essayer de garder nos personnes âgées du village, pour qu'elles puissent, ceux qui habitent dans des maisons à étage, revendre leur maison et puis rester au village en venant s'installer dans ces petits pavillons pour les personnes âgées. Donc on travaille sur ça. Et puis après, il y a quelques travaux, il y a des rénovations, notamment de salle des fêtes, et puis notre club de foot qui a des vestiaires qui sont dans un état un peu de délabrement, et c'est un club qui est assez dynamique.
Juste d'un mot, on sait que c'est dur de conjuguer mère, vie professionnelle, vie familiale. En un mot, en 30 secondes, Cédric Brandt, comment peut-on résumer? C'est compliqué, mais vous arrivez, vous maîtrisez.
Oui, alors moi, je suis actif, donc en plus, j'ai un métier, mère, c'est pas mon métier, donc j'ai un travail à côté où je me déplace beaucoup dans toute la France. Donc je me débrouille, j'empiète sur mes temps libres, le midi, le soir, les week-ends, les vacances où je bosse.
La journée type, alors le matin par exemple, ce matin, bon, c'est votre métier, ensuite vous allez à la mairie et puis vous repassez au métier, puis vous êtes à 18h en mairie, quoi, le soir.
Ouais, souvent le matin, mais voilà, le matin de bonne heure, je passe à la mairie, après je vais faire ma matinée de travail, j'y repasse le temps de midi. Je fais ma journée de travail l'après-midi et souvent...
Alors, vous me l'avez dit en aparté, Cédric Brandt, il y a des situations dramatiques, le décès en moto d'un frère de vos amis d'enfance, mais il y a des situations quand même plus sympathiques. Le maire, il est confronté à tout ça.
Hein. Ouais, alors c'était ça, moi, quand je me suis présenté maire, la peur, c'était ça, c'était de me dire, j'ai à avoir des amis qui décèdent en voiture et autres, et je vais devoir l'annoncer à la famille. Ça a été le cas rapidement dès que j'ai été élu. On a eu aussi un décès d'un agent dans la mairie, en train de travailler, qui a fait une crise cardiaque, qui est décédé dans la mairie. Donc oui, c'est des moments
vous
comme
en êtes
ça.
Sorti, oui.
Après, alors, il y a des bons moments aussi.
Il reste 30 secondes avec vous, Cédric Brandt. Ça passe très très vite. On aura l'occasion de vous retrouver, on se l'a dit en aparté. Est-ce que vous êtes un maire heureux en conclusion, en 30 secondes?
Oui, je suis un maire heureux parce que j'essaie de garder un œil sur l'évolution du village depuis que j'ai pris le poste de maire en 2014. Et je me rends compte qu'on a fait beaucoup, beaucoup de choses. Le village a beaucoup changé depuis 2014. Avec l'équipe municipale, il y a eu quand même un gros travail de fait. On a fait un pôle médical, on a fait venir 3 jeunes médecins, un dentiste, une kiné. Et là, on vient de faire un pôle scolaire tout neuf, une école toute neuve, en intégrant dedans 2 classes d'un institut médical.
On est obligé de se quitter, Cédric Brandt. Ça passe trop vite. On fera une autre émission. On vous souhaite une très, très bonne journée. Et on vous remercie, Cédric Brandt, maire de Flize, dans le département des Ardennes. À très bientôt sur RCF. Au revoir.
Au revoir.
À Reims, Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h28, on va prendre un petit peu de retard, mais on reste avec vous Jean-Pierre, parce qu'on vous a promis à nos auditeurs de parler musique avec Jean-Marie Puissant.
Avec nous aujourd'hui Jean-Marie Puissant. Jean-Marie Puissant, bonjour.
Bonjour.
Inutile de présenter Jean-Marie Puissant. C'est le chœur Nicolas de Grigny, mais c'est aussi l'ensemble Allégri qui nous propose un grand rendez-vous qui a lieu vendredi le 29 septembre à 20h30 en église Saint-Maurice de Reims. De quoi s'agit-il?
Il s'agit d'un concert pour la paix qui est organisé par l'association Reims Rayonnement International. Et c'est un concert qui va réunir l'ensemble Allégri, donc l'ensemble de solistes Allégri, qui est composé de 8 chanteurs que je dirige déjà depuis une dizaine d'années et avec lequel on fait des concerts non seulement en France, mais aussi à l'étranger, en Laponie, en Jordanie et au Japon bientôt. Et cet ensemble Allégri donc a invité un chœur tchèque qui est le chœur de l'église Saint-Thomas de Prague. qui nous avaient d'ailleurs déjà invités il y a quelques mois. Et là, c'est eux qui viennent spécialement à Reims pour ce concert. Et ils vont chanter un programme d'œuvres qui ont rapport avec la paix, c'est-à-dire qui ont été inspirées par le thème de la paix, par les compositeurs. Donc c'est un programme entièrement tchèque par le chœur Saint-Thomas de Prague. Et par contre, l'ensemble de solistes Allegri, que j'ai l'honneur de diriger depuis quelques années, va interpréter des œuvres de compositeurs européens, mais qui ont été aussi donc inspirés par ce thème de la paix. Donc il y aura des œuvres de Arvo Pärt, de Grieg, de Mio, Nistedt, Saint-Saëns, Delius, Hogan, enfin des œuvres tout à fait originales pour ensemble de 8 chanteurs, a cappella, sans instrument.
Comment fait-on dans les dernières heures là pour se réserver une place ?
Pour réserver une place, c'est assez facile. Hein. Il suffit de venir le jour du concert pour prendre des places, ou bien d'aller sur Eloasso et sur eloasso.com, sur lequel on peut trouver les places pour le concert.
Ensemble Allegri, le chœur de l'église Saint-Thomas de Prague, un magnifique concert qui a lieu vendredi 29 septembre à l'église Saint-Maurice à 20h30 à Reims, concert pour la paix. À très bientôt Jean-Marie Puissant.
Merci Jean-Pierre, à bientôt.
Un rendez-vous qui valait le coup d'être annoncé, 18h31, le journal régional sur RCF. Avec les titres de ce jeudi 28 septembre, entre l'augmentation du prix du gazole et les dernières décisions gouvernementales, la station-service indépendante de Saint-Mémy près de Châlons-en-Champagne garde le cap en faisant évoluer ses services. La cathédrale de Reims impressionne les prêtres étrangers lorsqu'ils sont venus pour l'ordination de Mgr Étienne Véteux. Mgr Justin Welby et le père Patrick Malloy ont apprécié les lieux. Confidence.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Quelques jours après avoir été élu monument préféré des Français, le château fort de Sedan ressent déjà les effets de sa consécration. En septembre, on note 45% de hausse des visites, dont 40% rien que pour le week-end des Journées européennes du patrimoine. Le nombre de visiteurs moyens par jour a lui doublé sur l'année. De 143 en 2022, on en compte 300 en 2023, une distinction qui a apporté de la crédibilité. 120 000 opérations dans 4 000 stations essence jusqu'à la fin de l'année. C'est donc l'option de la vente à prix coûtant qui l'a emporté au profit de la vente à perte recalée la semaine dernière. Pour les petites stations-service indépendantes, c'est une situation plus que délicate. Christopher Fausten.
Oui, une situation compliquée qui se prolonge, comme nous l'explique Jérôme, gérant du garage Pini à Saint-Mémy.
C'est vraiment tendu depuis déjà, on va dire, 2-3 ans avec la guerre en Ukraine, le Covid. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est les prix qui sont à la hausse avec les produits producteurs qui se limitent au niveau de la production. Donc, on sent que ça tire, que les gens roulent moins. Chacun essaye d'économiser un peu les kilomètres, avec le covoiturage, par exemple. Au niveau des prix, on a des prix qui sont fixés par le pétrolier. Donc, après, ils essayent d'être au plus juste par rapport à la concurrence. Et c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas de grosses différences. Quoi.
Étant la seule station-service indépendante du territoire chalonnais, Jérôme garde le cap en visant son activité.
Aujourd'hui, c'est vrai que dans le mot station-service, on a un petit peu oublié le mot service. Donc, on continue à servir les clients qui veulent. Bon, après, s'il y a besoin de faire les niveaux, le gonflage, il n'y a pas de souci. On s'est aussi pas mal diversifié avec l'activité, que ce soit les bouteilles de gaz, les colis et la location de véhicules.
Une situation délicate, mais le gérant reste confiant.
Après quelle échéance, on ne sait pas. On sait qu'on est encore dépendant du pétrole. Bon, maintenant, on suit un peu l'actualité avec les véhicules électriques. Bien que je pense que ce n'est pas la panacée, il n'y aura pas une solution, il y aura des solutions.
En attendant l'évolution, Jérôme évolue et modernise son activité.
On a un projet dans les cartons, donc là on va voir un petit peu pour diversifier les différents produits et s'adapter un petit peu avec tout ce qui est biocarburant, quoi. Que ce soit aussi bien le 10 par rapport à le 5, pourquoi pas l'éthanol, le 85.
Un reportage de Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne a noté qu'à l'heure où le carburant est de plus en plus cher pour les consommateurs, certains font le choix de vivre sans voiture. Nos confrères de l'Ardennais ont ouvert un dossier région sur la décarbonation en pages 6 et 7 ce jeudi. Si je vous dis 9 septembre 2023, forcément les diocésains de Reims et des Ardennes se rappellent de cette date pas si lointaine. Ce samedi-là, Mgr Étienne Véteux était ordonné évêque auxiliaire de notre diocèse. Parmi l'assemblée, il y avait des invités de prestige venus venus du monde entier qui découvraient Reims pour la première fois. Parmi eux, Mgr Justin Welby, archevêque de Canterbury et primat de l'Église d'Angleterre, confié à être impressionné par la cathédrale Notre-Dame de Reims.
J'ai passé 5 ans à Paris, mais nous ne sommes jamais venus à Reims. Donc je suis bien content d'être ici et surtout de voir les vitraux de Chagall qui sont absolument extraordinaires et cette cathédrale magnifique. C'est d'un style de cathédrale, la cathédrale à Canterbury est un peu plus vieux et on voit que entre Canterbury et Reims, ils ont développé le style gothique et donc c'est plus haut. Et la taille des piliers est moins pour donner le sens de lever les yeux vers les cieux. Donc c'est extraordinaire, il y a un effet spirituel absolument magnifique.
Autre prêtre anglophone venu lui de New York, le père Patrick Malloy, partageait son étonnement au moment d'apprécier Notre-Dame de Reims.
C'est belle, oui, c'est belle et c'est grand, mais notre cathédrale est plus grande, mais c'est ancien. Et aux États-Unis, tout est nouveau, oui, il n'y a pas de quoi qui est ancien comme ça.
Des propos recueillis au micro de RCF Reims-Ardennes avec de tels ambassadeurs, nul doute que Reims devrait attirer de nouveaux touristes américains et britanniques dans les prochains mois, 18h36.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Rubrique habituelle du jeudi, parole de jeunes, ce jeudi soir avec Jeanne qui rencontre deux de ses amis pour parler du service national universel.
Bonjour et bienvenue dans Parole de Jeunes. Aujourd'hui, j'interview Ava et Juliette à propos du SNU. Bonjour Ava.
Bonjour.
Bonjour Juliette.
Bonjour.
C'est quoi le SNU ?
Le SNU il est composé donc de 12 jours dans un lycée, donc le séjour de cohésion. Et ensuite, nous avons la deuxième phase qui est obligatoire pour avoir notre diplôme, comme quoi on a participé au SNU. Donc on s'inscrit soit dans une association, soit on peut faire notre prépa militaire, ou alors, comme moi, je me suis inscrite dans les cadets de la gendarmerie, ou Ava, par exemple, au Resto du Cœur. Et on va participer pendant 84 heures dans cette association-là, et on va découvrir beaucoup de choses en plus.
Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire ?
J'ai toujours aimé tout ce qui était militaire, etc., depuis toute petite. Et quand on m'a parlé en seconde du SNU, j'ai tout de suite voulu m'inscrire là-dedans parce que je trouvais ça très enrichissant pour moi et ça me permet de découvrir d'autres personnes et d'ouvrir mes portes au niveau des métiers.
Et toi, Ava ?
Premièrement, quand j'en ai entendu parler, j'étais aussi très intéressée. Puis on en a reparlé un peu avec Juliette, on voulait le faire ensemble, donc on s'est inscrite en même temps et c'est vraiment ça qui m'a motivée.
Comment ça s'est passé, le SNU ?
On a reçu un mail avec notre affectation une semaine avant. Nous, on a été affectés à Nancy, dans le 54, dans un lycée agricole. Et il y a eu 3 groupes qui sont faits, 3 compagnies, on les appelle. Et dans ces compagnies-là, il y a des maisonnées. Suite à ça, on fait des activités entre compagnies ou entre maisonnées. Ou alors, on peut faire aussi des compagnies VS des compagnies.
Quelque chose à ajouter avant ?
Du coup, on était avec d'autres jeunes. On est vraiment soudés avec sa compagnie au cours du séjour. Pareil avec sa maisonnée, peut-être encore un peu plus, parce que du coup, c'est vraiment les personnes qu'on côtoie le plus au quotidien.
Qu'est-ce qu'on vous a appris au SNU ?
Le séjour de cohésion, c'est vraiment dans la collectivité, donc apprendre à vivre avec l'autre. Il y a aussi des intervenants extérieurs qui sont venus, comme les gendarmes, les militaires ou encore la sécurité civile. On a eu aussi une association sur la sexualité. C'était très cru, ça nous a vraiment appris tout ce qu'on n'avait pas pu apprendre.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, le SNU ?
Personnellement, ça m'a appris à m'organiser. Par rapport à ma phase 2, comme je l'ai fait au Resto du Cœur, c'est un travail assez répétitif. Il faut savoir bien organiser les tâches, les répartir. Donc, il faut vraiment avoir une rigueur au niveau du travail. Et ensuite, par rapport à la phase 1, ça m'a appris peut-être à m'ouvrir un peu plus aux autres.
Et toi, Juliette ?
Ça m'a beaucoup appris sur mon avenir, mais aussi à comment intervenir si problème, etc. Donc, des choses vraiment très utiles à la vie de tous les jours.
Qu'est-ce qui vous a le plus plu ?
Au niveau des Olympiades, c'était vraiment cool parce qu'on courait un peu partout, c'était vraiment dans l'euphorie et c'était vraiment un moment de joie, je trouve. Ça nous a permis de vraiment s'amuser. Un autre bon souvenir, c'est vraiment toute ma phase 2 parce qu'au Resto du Cœur, j'ai rencontré des gens vraiment formidables. J'en garderai toujours un bon souvenir.
Qu'est-ce qui vous aurait moins plu dans le SNU ?
Par rapport à ce qui m'a le plus déplu, c'est peut-être le test de JDC. Donc tu fais ta journée d'appel dans le SNU et t'as un test de français à faire. C'est des questions pour savoir si t'as des problèmes en français. Le truc, c'est que c'est vraiment ennuyant.
Qu'est-ce que vous pensez de rendre le SNU obligatoire ?
Rendre le SNU obligatoire, je pense que c'est une très mauvaise idée, parce que justement le SNU, ça part des enfants, c'est-à-dire que les enfants sont volontaires, ils viennent parce qu'ils en ont envie, donc c'est ça qui participe un peu au séjour de cohésion, c'est ça qui fait la cohésion d'un groupe. Et le rendre obligatoire, ce serait horrible, parce que les gens, ils apprécieront pas de la même manière que s'ils étaient venus de eux-mêmes.
Et toi, Ava, qu'en penses-tu ?
Les adolescents qui vont au SNU, on les appelle les jeunes volontaires. Donc ça casserait tout le concept s'ils n'étaient plus volontaires forcés par l'État. Ce serait plus des jeunes obligés. Après, dans ma compagnie, par exemple, il y avait une personne qui a été forcée par ses parents. Mais au final, la personne a vraiment apprécié le séjour. Elle nous l'a dit à la fin que finalement, elle était trop contente d'être venue. Mais c'est vrai que le rendre obligatoire, ça fausserait beaucoup de choses. Ce serait plus un engagement volontaire, ce serait un engagement obligatoire.
Merci beaucoup Ava et Juliette pour votre participation. C'est tout pour cette émission et à la semaine prochaine dans Parole de Jeunes.
Le magazine régional le 18-19 en Champagne-Ardenne. Hier, mercredi, était la journée nationale du refus de l'échec scolaire. Chaque année, 150 000 élèves quittent le système scolaire sans diplôme, soit près d'un jeune sur cinq. Qu'en est-il en Champagne-Ardenne ? Armel Simon, responsable de l'école de la deuxième chance Champagne-Ardenne, est avec Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne.
Armel Simon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur RCF. On vient de nous donner un chiffre là sur ces 150 000 élèves. Qu'en est-il concernant la Champagne-Ardenne, mais au nom de l'école de la deuxième chance ?
Au niveau de la Champagne-Ardenne et sur le public qu'on accueille au niveau de l'école de la deuxième chance, on voit depuis quelques années une augmentation du public mineur. Et donc ce public vient du décrochage scolaire. Et d'autant plus que depuis 2018, il y a une obligation de formation pour les jeunes entre 16 et 18 ans. Et donc je vous rappelle que l'école est obligatoire jusque 16 ans. Et donc depuis cette obligation de formation, on a vu une augmentation progressive sur nos sites. Et on accueille aujourd'hui entre 35 à 40% de publics qui ont en dessous de 18 ans, alors que notre moyenne est normalement autour de 19 ans.
En discutant avec ces élèves qui rentrent à l'école de deuxième chance, qu'entendez-vous comme retour des élèves ? Pourquoi ils lâchent leur scolarité ?
Il y a beaucoup de jeunes qui ont des phobies scolaires,
oui,
qui ont eu des difficultés à s'intégrer au sein d'une école ou qui ont été aussi malmenés. Il y a beaucoup de jeunes qui ont de mauvaises expériences au niveau de l'école et qui décrochent. Mais on a aussi beaucoup de problèmes d'orientation. Des jeunes qui ne se trouvent pas au bon endroit ou qui n'arrivent pas à s'inscrire dans le diplôme ou dans les études qui ont été généralement choisies ou fortement proposées selon le niveau scolaire qu'ils ont à la sortie de la troisième.
Alors vous, en tant que responsable de l'école de la deuxième chance Champagne-Ardenne, Armel Simon, on se dit c'est bien d'avoir des jeunes, mais c'est pas l'objectif. L'objectif forcément, c'est qu'il y ait de moins en moins de jeunes malgré tout qui ne lâchent pas la scolarité. Comment vivez-vous cette situation, vous, en tant que responsable de l'école de deuxième chance ?
Ce qui est particulier avec le public de mineurs, c'est que généralement, ils sortent quand même de l'école. Donc, même si nous, on s'appelle école de la deuxième chance, on travaille l'insertion professionnelle.
Oui.
Les jeunes qui intègrent l'école sont stagiaires de la formation professionnelle, donc qui relèvent du droit du travail, donc ils doivent fournir des arrêts de travail et pas un certificat médical. Et en fait, ce sont des jeunes qui sont encore énormément dans le système scolaire. Donc, ils doivent vraiment aussi s'adapter à une nouvelle façon de travailler, à être, j'ai envie de dire, plus responsables. On attend d'eux qu'ils soient un petit peu plus mobilisés, qu'ils aient plus d'envie et qu'ils se positionnent. C'est-à-dire que si eux ne se positionnent pas sur leur parcours, on ne pourra pas le faire pour eux parce qu'ils n'ont pas d'obligation, en fait, d'être chez nous. Donc, il faut qu'ils soient chez nous et qu'ils aient envie d'y être, qu'ils se donnent les moyens. Alors, quand on parle de moyens, on parle de petits moyens. Hein. On n'est pas non plus en train de leur demander d'un seul coup de devenir les parfaits élèves. Enfin, c'est pas ça. Mais on leur demande quand même à un moment donné d'être un petit peu mobilisés. Donc c'est sortir aussi de la posture d'élève. Et puis ils sont jeunes. Quand on parle de jeunes qui ont 16 ans, ils sont aussi encore un peu enfants. Donc c'est compliqué parfois d'aller se mobiliser pour choisir un métier, d'aller en entreprise. d'aller travailler et puis de regarder ses copains qui sont encore à l'école et de se dire bon bah eux ils ont des vacances scolaires, ils ont des week-ends, tout ça, et puis moi je choisis un métier par exemple dans la boulangerie ou dans la restauration où il va falloir que je me lève très très tôt le matin, il va falloir que je travaille le week-end. Donc d'un seul coup, il y a aussi...
Il y a un recul.
Il y a un recul qui se fait, mais très très souvent, on a mené une expérimentation cette année en Champagne-Ardenne qui s'appelle la tri-alternance. On a accueilli des décrocheurs de l'éducation nationale, mais qui sont encore dans l'éducation nationale et qui sont restés statut d'élèves. Mais pour tout ce qui est projet professionnel, stage, ils sont venus à l'école de la deuxième chance ou au sein du CFA sur trois. Et ce qui était intéressant, c'est ce qui les a accrochés, c'est l'entreprise. Travailler, de faire le métier, ça les a accrochés et ça leur a montré aussi qu'ils pouvaient faire eux des choses. Et ça fonctionne assez bien avec un public en tout cas mineur.
Armel Simon, responsable de l'école de deuxième chance Champagne-Ardenne avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous parler justement de cette journée nationale du refus de l'échec scolaire, mais aussi de l'école de la deuxième chance. On en profite pendant ces quelques minutes ensemble avant de nous quitter pour évoquer cette école. Alors, école, c'est un grand mot, hein, vous venez de le dire il y a quelques instants, qui existe depuis 21 ans sur 10 sites du territoire Champagne-Ardenne. Est-ce qu'on peut citer brièvement les lieux où se trouve le 2C pour abréger tout ça?
Alors, le 2C en Champagne-Ardenne, effectivement, c'est 10 sites qui se trouvent sur les 4 départements de l'ex-Champagne-Ardenne. On en a 4 dans les Ardennes. Donc Sedan, Fumé, Charleville et Rethel. On en a 2 dans la Marne, à Reims et à Chalon. Alors Reims s'appelle le Nord-Marnais parce qu'on accueille tous les jeunes du Nord-Marnais, donc Bazancourt, Fismes. On a aussi 2 sites en Haute-Marne, à Saint-Dizier et à Chaumont, et 2 sites dans l'Aube, à Troyes et à Romilly.
Et donc vous êtes là tout au long de l'année pour accueillir justement les jeunes dans cette situation d'échec scolaire, on peut le dire. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à l'E2C Champagne-Ardenne, Armand Simon ?
Nous, notre objectif, c'est qu'ils valident un projet professionnel, c'est qu'ils choisissent un métier. Peu importe d'ailleurs, hein, on est ouvert à tout type de métier puisqu'on accueille des jeunes entre 16 et 25 ans.
Oui.
Alors, sans diplôme ni qualification, depuis peu, on peut aussi accueillir des jeunes avec le bac obtenu parce qu'on s'est rendu compte, et ça, c'est plus depuis le Covid, qu'on a beaucoup de jeunes qui se retrouvent avec le bac et qui, en fait, derrière,
bah,
on est toujours sur la question de l'orientation, n'ont rien sur Parcoursup, n'ont pas de suite et ont besoin d'être accompagnés. Donc nous, notre objectif, c'est par l'intermédiaire de stages en entreprise, c'est d'aller découvrir des métiers, d'aller directement dans l'entreprise. Donc c'est aussi important parce que on a à peu près 90% de notre public qui n'a jamais mis les pieds en entreprise. Pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie, ça peut être important aussi d'aller l'expérimenter directement. Et autrement, ils sont en centre. Et quand ils sont en centre, alors on fait de la remise à niveau, mais on travaille surtout par l'approche par compétences.
D'accord.
On monte des projets, ils font des activités qui leur permettent de monter en compétences et en tout cas d'acquérir les compétences nécessaires pour rentrer dans le monde professionnel.
Alors les jeunes qui nous écoutent et qui ont besoin de l'E2C Champagne-Ardenne, comment faire ?
On a un site internet où vous pouvez déjà retrouver toutes nos coordonnées. Vous pouvez passer par les missions locales et par Pôle emploi. Enfin, ce sont nos prescripteurs historiques et c'est important aussi d'être inscrit aussi à la mission locale parce que ça permet aussi d'avoir un autre suivi. Et autrement, vous pouvez pousser les portes des écoles de la deuxième chance. Il y a à peu près des informations collectives sur tous les sites toutes les semaines. Et en tout cas, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre et vous expliquer comment intégrer notre école.
Avant de nous quitter, convaincre l'auditeur qui se sent concerné par l'échec scolaire et qui se sent dans le besoin d'être accompagné, d'être formé, à faire des stages. Quel message souhaitez-vous faire passer à l'auditeur concerné ?
On prend le temps, on prend les jeunes en tant qu'individus. On travaille sur des parcours qui sont vraiment individualisés parce que même s'ils rentrent parfois par groupe sur des sites assez importants,
oui,
ils ont tous des niveaux différents, ils ont tous des histoires différentes et ils ont tous des besoins différents. De toute façon, ne serait-ce que selon le métier choisi, de toute façon, il va pas falloir développer les mêmes compétences ou aller chercher les mêmes choses. Donc on laisse le temps aussi de pouvoir découvrir, de pouvoir valider des choses. Ce qui est important, c'est des fois, c'est de rêver aussi, d'avoir envie. Là, on a monté un groupe qui s'appelle Graines de pâtissier avec la Fondation Valrhona, où on a permis à peu près à 15 jeunes de pouvoir découvrir les métiers de la pâtisserie et de la chocolaterie.
Super.
Ils ont même fini avec un jury comme à la télé.
Meilleur pâtissier.
Non, mais c'était... Donc voilà, et ce qui est important, c'est qu'il y en a qui sont allés au bout de leurs rêves, il y en a qui se sont rendus rendu compte que c'était peut-être pas ce qu'ils voulaient faire et donc ils sont restés avec nous et on les accompagne sur autre chose. Donc l'important, c'est de se donner sa chance et d'y croire. Et là, nous, on est là pour les accompagner.
Merci beaucoup, Armelle Simon, responsable de l'école de deuxième chance Champagne-Ardenne, d'avoir accepté notre invitation dans les studios de RCF. À très bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Un grand merci à Armelle Simon, à Christopher Fausten qui étaient ensemble depuis les studios de RCF à Châlons en Champagne.
Le 18-19 sur RCF.
18h50, deux invités avec Jean-Pierre Benoît, Jean-Marie Beaupuis, ancien député européen que vous connaissez bien sur l'antenne de RCF France-Ardennes, producteur d'émissions, et Jean-Christophe Bobin, chargé de la pastorale comme adjoint de l'enseignement catholique dans l'interdiocèse des diocèses de Reims et des Ardennes et du diocèse de Châlons. Ensemble, ils nous parlent de la conférence, deux conférences même, sur le sens de la vie.
Jean-Marie Beaupuis, bonjour.
Bonjour.
Jean-Christophe Bobin, bonjour. Bonjour. C'est une initiative un peu commune. Jean-Marie Beaupuis a eu l'idée. L'enseignement catholique a abondé dans le même sens. Des conférences autour de la vie. Quel sens a la vie et à ma vie? Jean-Marie Beaupuis.
Absolument, oui, parce que c'est un constat. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour entendre chaque jour sur les radios, télévisions, les journaux, en fait, les gens qui se posent des questions. Ils se posent des questions pour eux-mêmes, dans leur travail, qui se posent des questions pour l'orientation de leurs enfants. On se pose des questions. Quel est le sens aujourd'hui? Il y a une recherche, il y a une quête de sens. Il est clair que dans notre société, la spiritualité, l'élévation, l'âme, etc., est un peu cachée aujourd'hui. Et paradoxalement, sans revenir à Malraux, le 21e siècle, il y a une quête de sens. Et c'est pour ça qu'avec l'accord de l'archevêque notamment, et Franck Talleux, Jean-Christophe Bobin, la tutelle, l'enseignement catholique, nous avons décidé de mettre ça en place.
Un mot revient, Jean-Christophe Bobin, c'est le mot « vie ». C'est le mot « vivre » et il va être décliné dans une série de conférences qui commencera le mardi 3 octobre à 18h30 à l'église Saint-André de Reims et qui s'achèvera au mois de mai 2024.
Exactement.
Alors, l'enseignement catholique, il prend sa part.
Eh bien absolument, parce que vous savez que nous avons sur l'interdiocèse de Reims et Châlons 23 000 élèves. L'impact sur la société, c'est la plus grande surface de contact entre l'Église et la société. Alors évidemment, cette question, elle est centrale. Et c'est pour ça que nous commençons le 3 octobre eh bien, à l'Église Saint-André avec le premier thème « Aimer pour vivre ». Parce que finalement, si nous existons, eh bien, c'est parce que quelque part, nous sommes des êtres de relation et que c'est au cœur de cette relation, qui est un don de vie de Dieu, eh bien, que va se jouer l'amour qui nous fait vivre. Déjà l'amour qu'on reçoit de nos parents. L'amour de nos parents, l'amour qu'on reçoit de nos parents et l'amour qu'on est invité à vivre eh bien, les uns avec les autres. Et c'est le sens du message chrétien. Alors même quand on n'est pas chrétien, eh bien, on a besoin d'amour. L'amour n'est pas exclusif aux chrétiens, bien au contraire. Et Jésus le dit lui-même bien souvent dans les évangiles. Mais c'est vraiment le cœur central, je crois, de notre existence, aimer pour vivre.
Alors Jean-Marie Beaupuis, plusieurs conférences, plusieurs lieux. Le premier, on l'a dit, c'est le plus important pour notre première émission à l'église Saint-André de Reims. Mais il y a des lieux très différents tout au cours de cette année. Ensuite, il y aura en décembre, janvier, avril, mai.
C'est voulu justement. Alors chacun des citoyens, qu'ils soient adultes, jeunes, professeurs, etc. de nos diocèses, de Châlons et de Reims, c'est-à-dire de la totalité de la Marne et des Ardennes, pourront soit écouter en direct, soit chez eux en visioconférence, bien sûr, d'une part, ou le regarder plus tard. Et il faut souligner que justement les lieux sont différents, c'est aussi bien à l'église Saint-André, comme cela vient d'être dit, le 3 octobre, mais aussi dans les chapelles, dans deux chapelles, à Châlons et à Reims, mais aussi à l'hôtel de ville de Reims, où là la conférence sera dirigée, introduite et développée par Monseigneur l'archevêque de Reims.
Il faut signaler d'ailleurs que les deux évêques participent.
Absolument.
À ces rencontres. Monseigneur Touvet, ce sera en décembre, ce sera donc à Châlons-Champagne, j'allais dire dans son diocèse, et Monseigneur de Moulin-Beaufort au mois d'avril. Première conférence, Aimer pour vivre, avec Gérard Lemarié qui sera présent, d'ailleurs, je l'ai remarqué, dans toutes
bien
les
sûr,
conférences.
Bien sûr.
Ça sera en quelque sorte le meneur de jeu.
Oui, mais alors, ce qui est intéressant, Jean-Christophe peut y revenir, nous avons fait le choix d'avoir un panel très éclectique, c'est-à-dire qu'il y aura nos deux évêques, bien sûr, mais il y aura un chef d'entreprise, il y aura un psychiatre, il y aura un psychologue, il y aura différents intervenants, justement, pour montrer que cette quête de sens de la vie doit être examinée dans ses différentes facettes.
Et pour rejoindre ça, c'est vraiment la question du dialogue. Comment sommes-nous? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, aimer pour vivre, c'est nous sommes des êtres de relation, hein, c'est vraiment, nous sommes des personnes et pas des individus complètement isolés. Et c'est dans cette relation que va se jouer, eh bien, ce que nous vivons et comment nous vivons. Et donc, c'est vraiment cela que nous voulons vivre, non pas dans une vision dogmatique des choses, mais au contraire, dans un dialogue. Et vous voyez, ça, c'est profondément chrétien, parce que c'est comme ça que Dieu va se révéler aux hommes en dialoguant. Non pas en arrivant de façon toute puissante et en écrasant par des dogmes insupportables, mais bien au contraire. Et quand on lit la Bible, eh bien Dieu dialogue avec le monde. Quand on lit les Évangiles, Jésus dialogue avec tout le monde. Et ça, c'est vraiment cette manière de faire que nous voulons, lors de ces conférences, dialoguer avec des hommes d'Église, mais aussi des hommes de culture, de science, de lettres, de politique également.
Un écrivain philosophe, Éric Emmanuel Schmitt, un chef d'entreprise, le PDG du groupe Frey, Antoine Frey, et puis aussi, bien entendu, nos deux évêques. Jean-Marie Beaupuis, on dit parfois que l'Église, en tout cas la parole chrétienne, elle est un peu absente du discours de notre société.
Oui.
Et est-ce que ces conférences, d'une certaine façon, ne visent pas à réaffirmer une présence spirituelle du sens dans le domaine de la culture que nous avons peut-être parfois tendance à déserter?
Oui, tout à fait. Il ne faut pas se replier, justement, c'est un des objectifs de ces conférences, de ces échanges, de ces partages, c'est d'amener non seulement les gens qui vont à la messe le dimanche, mais aussi bien au-delà. Tous les parents d'élèves qui confient leurs enfants à l'enseignement catholique ne vont pas tous à la messe le dimanche, mais ils se posent tous la question du sens, justement, et nous voulons ouvrir le débat, justement, avec toutes ces personnes qui sont soit dans nos institutions catholiques, mais bien au-delà, à la périphérie, dirait le pape. C'est tout le sens de la quête de sens que nous recherchons.
Et puis surtout, Jean-Christophe Bobin, c'est ce que vient de dire à l'instant Jean-Marie Beaupuis, c'est que beaucoup n'ayant pas entendu, en tout cas cette proposition du sens spirituel et du sens de l'Évangile, trouvent une réponse du sens dans d'autres domaines.
Mais
on
oui.
pense par exemple au New Age, au bien-être, on cherche
bien
du
sûr,
sens,
bien
on
sûr.
Cherche du sens parce qu'on on les voit courir le dimanche, faire du jogging, on donne un sens, on veut maigrir en même temps. C'est ça la société d'aujourd'hui.
Mais oui, parce que en fait, c'est les questions profondes que nous nous posons de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs. Mais qui je suis? D'où je viens? Où je vais? Ces questions essentielles, à travers ces conférences, on va se les poser, mais de façon consciente, en écoutant et en dialoguant. C'est extrêmement pas important, cette respiration que nous voulons, parce que c'est bien là que se joue au cœur de nos relations ces questions, finalement, quel est le sens de la vie? Et on l'a dit, la société est en quête de sens, mais en même temps, on propose, comme vous l'avez dit, plein de sens.
Est-ce que vous allez vous appuyer sur des passages de la Bible?
Alors évidemment, les intervenants seront appelés. Vous imaginez bien que les évêques sont invités évidemment à parler de la vision chrétienne de l'homme. Évidemment, de parler des textes du pape François. Enfin, là, le pape François vient à Marseille. Donc vous imaginez bien que les évêques vont parler du sens chrétien de la vie.
Alors retour, je vous interromps puisqu'il nous reste une minute, hein, Jean-Christophe, le temps passe très vite avec vous. Jean-Marie Beaupuis, donc on recentre sur le 3 octobre, c'est à 18h30, c'est gratuit, c'est à l'église Saint-André. Quels vont être les participants à cette première conférence?
Les deux principaux participants seront l'abbé d'Ilysia, que de nombreux membres du diocèse connaissent déjà pour son action missionnaire, et puis Gérard Lemarié, philosophe, qui vont...
Et puis vous-même.
Et moi-même, bien entendu, j'essaierai d'apporter ma contribution. Bien sûr. Je dois dire aussi, pour souligner à la fin de cette intervention, que nous ne nous limiterons pas aux conférences. Le lendemain, il y aura un décodage qui sera fait à l'Union et dans les jours suivants, les groupes, chacun sera invité chez lui à revenir sur ce sujet.
Un grand merci à Jean-Marie Beaupuis, ancien député européen, à Jean-Christophe Bobin, chargé de la pastorale comme adjoint de l'enseignement catholique dans l'interdiocèse des diocèses de Reims et des Ardennes et des diocèses de Châlons, d'avoir été nos invités pour nous présenter ces très beaux rendez-vous qui, vous l'avez compris, démarrage le 3 octobre, mais ça va s'étaler jusqu'au mois de mai 2024. Il y aura des conférences un petit peu pour tout le monde. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'y rendre et à participer à ces très beaux moments. Ainsi se referme le magazine régional. Ce soir, on a tout de même le temps de saluer Fabrice Gironnet qui était à la mise en onde, le temps de saluer Mélissa Tavares, notre stagiaire à la rédaction en communication. Ça va Mélissa? Ça vous plaît de rester comme ça avec nos auditeurs?
Bah oui, ça me plaît.
Eh ben tant mieux, c'est aussi pour ça qu'on fait de la radio, ce n'est pas que pour être enfermé toute la journée dans un bureau à faire du visuel, c'est aussi pour ces moments-là où vous avez la chance de pouvoir être à l'antenne et de participer à ces directs avec nous. Le magazine régional, c'est tous les soirs de la semaine. Tiens, on vous donne un rendez-vous pour ce week-end sur RCF France Ardennes, dimanche à 16h, la solennité de Saint-Rémy qui sera retransmise retransmise en direct et en intégralité. Une célébration qui sera présidée par Monseigneur Bruno Feuillet, évêque du diocèse de C, qui a été évêque auxiliaire dans le diocèse de Reims et des Ardennes. Évidemment, on essayera de l'avoir aussi à l'antenne à quelques minutes du début de la célébration. Sinon, le rendez-vous, c'est à la basilique Saint-Rémy de Reims à 16h. Procession de la chasse, illumination de la couronne aux 96 bougies. Ça fait vraiment un joli programme. C'est une très belle célébration à laquelle on vous invite à vous rendre. Et si vous ne pouvez pas être là, vous pouvez la vivre avec nous sur les ondes de RCF. Le magazine régional revient demain, vendredi, 18h10, avec les habitués comme le professeur Jacques Cohen ou encore comme Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, mais aussi des petites surprises qui vous seront concoctées exprès pour vous, les auditeurs de RCF. On vous souhaite une très bonne soirée. Dans quelques instants, c'est l'information nationale qui revient avec le réseau national de RCF. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes.